Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, 7e cassette, 2e face, page 291. Suite et fin de la caravane. Un vrai marchand, pensa le roi, s'est estimé le prix d'une pierre précieuse. Je vais donc présenter à cet homme ma perle la plus rare. S'il connaît sa valeur, c'est qu'il en a vu d'autres. Et s'il en a vu d'autres, c'est qu'il n'est pas l'escroc que l'on prétend. Il convoqua Marouf. « Ami, lui dit-il, regarde ce joyau. Selon toi, que vaut-il ? » ?»« Comment savoir ? » pensa Marouf. « Je vends des courants d'air et point de ces cailloux luisants. Mais si j'avoue mon ignorance, je suis perdu. » « Sire, répondit-il, le cœur en débandade, votre perle est de belle mine. Pourtant, auprès de celle que transporte la caravane que j'attends, soit dit sans offenser votre gloire, elle ne vaut pas plus qu'un galet de rivière. »« Oh, vraiment ? » dit le roi. « Cet homme, pensa-t-il, est mille fois plus riche que je n'imaginais. Il me le faut pour gendre. »« C'est un menteur !» lui souffla le vizir. Le roi lui répondit, « Oh, toi, tu es jaloux. Tu aurais bien aimé que je t'offre ma fille, que j'ai choisi Marouf t'enrage. Voilà tout. » Les rêves ont une fin, pensa Marouf. J'accumule les dettes et je ne gagne rien. Un jour, il faudra bien qu'on me jette en prison. Épouser la princesse pour le lamentable brigand que je suis ne serait pas convenable. Que faire, Dieu du ciel ? Gagner du temps encore. Il dit au roi, Seigneur, tant que la caravane qui me viendra bientôt n'est pas dans ma maison, je ne peux pas pourvoir aux besoins d'une épouse princière. Je vous suggère donc de repousser la date du mariage. Décidément, pensa le roi, voilà bien le plus honnête homme qu'il m'ait été donné de voir. Épouse ma fille, lui dit-il, c'est un ordre. Embrasse-moi, mon fils. Il offrit à Marouf de puiser sans souci dans le trésor royal en attendant sa caravane. Et donc Marouf puisa. Ses noces furent inoubliables. Une pluie d'or tomba sur les 10 000 mendiants de la ville. 30 jours, 30 nuits, on festoya partout. Quand les nouveaux époux se retirèrent dans leurs appartements, Marouf se déchaussa, massa longuement ses orteils et dit à son épouse, « Femme, je suis inquiet. Nous avons dépensé autant de pièces d'or qu'il y a d'étoiles au ciel. » « Pourquoi t'en préoccuper ? Lui répondit la princesse, « puisque ta caravane arrivera bientôt. » Marouf la regarda. Elle lui sourit, heureuse et confiante. Alors, il décida de ne pas lui mentir. « Femme, lui dit-il, ma caravane est un rêve. Elle n'existe pas, n'a jamais existé, n'existera jamais. Je suis un imposteur. Le vizir a raison, bien qu'il m'ait accusé par convoitise. Par convoitise aussi, ton père m'a flatté en me donnant sa fille, mais qu'importe. Tu sais la vérité maintenant. Que vas-tu faire ? L'épouse ne peut déshonorer l'époux sans tomber elle-même en déshonneur, répondit la princesse. Marouf, fais-moi confiance. Prends l'or qui nous reste et quitte le pays. Dès que je le pourrai, je viendrai te rejoindre. Marouf baisa ses mains. Déguisé en esclave, il sortit de la ville et s'en alla sur le chemin désert. Le lendemain matin, la princesse vint dans la salle du trône où se tenait le roi. « Où est ton époux ? » demanda son père. Elle lui répondit, « Sire, il a dû partir. Des brigands du désert ont attaqué sa caravane. Un messager hier soir est venu le lui dire. Ils ont tué 50 de ses gardes et pris 100 charges de chameaux, ce qui n'est rien pour lui, sa fortune est si vaste. Mais il a décidé d'aller au-devant de ses trésors qui cheminent vers nous pour rassurer ses gens et marcher à leur tête. « Quel homme ! » dit le roi. « Je maintiens, majesté, que c'est un imposteur !» murmura le vizir. La princesse salua son père et se retira dans sa chambre. Or, Marouf, courant sur son chemin, parvint au jour naissant au bord d'un champ que labourait un homme. Il s'assit sous un arbre, dans l'herbe. L'homme vint vers lui et lui dit : « As-tu faim ? Tu m'as l'air fatigué. Attends-moi un moment, je vais chercher du pain et du fromage là-bas dans ma cabane et nous déjeunerons ensemble. » Il s'éloigna en sifflant une mélodie fraîche. Marouf pensa : « Ce frère de misère m'offre ce qu'il a sans rien me demander. Que puis-je faire, moi, pour lui rendre service ?» Il regarda le champ. Labourer un sillon pendant qu'il n'est pas là, se dit-il encore, voilà le seul moyen de payer sa bonté. Il vint à la charrue, empoigna le mancheron et se mit à pousser. À peine avait-il fait trois pas que le soc heurta une pierre. Il se pencha, la souleva et découvrit un trou. Il se pencha plus près. Un escalier s'enfonçait sous la terre. Il descendit 20 marches, parvint dans une grotte. Au mur brûlaient des lampes perpétuelles. Partout étaient des coffres. Il débordait d'or, de diamants, de bijoux. Marouf, les bras ouverts, s'avança parmi ces merveilles. Son pied buta contre une boîte. Il la ramassa, l'ouvrit, n'y trouva qu'un anneau. Il le prit, le frotta contre sa manche. Une fumée jaillit, et dans cette fumée prit forme un être énorme. Ce n'était pas un ogre, il avait l'air aimable.
« Maître de l'anneau, dit-il, je suis ton serviteur. »
Il s'inclina. « Qui es-tu, dit Marouf, à qui sont ces trésors ?»«
Le père du bonheur, c'est ainsi qu'on m'appelle, lui répondit le djinn. Ces biens furent ceux de Shaddad,
Shaddad,
fils d'Aad,
2AD,
vieux roi de ce pays.
Marouf lui ordonna de vider la caverne et de tout ramener dans le champ au soleil du matin. À l'instant, ce fut fait. D'innombrables chameaux, ânes, mulets, chevaux, par la magie du djinn, aussitôt apparurent. Il fut chargé par 1000 mamelouks, nés d'un clignement d'œil du père du bonheur. Le paysan revint avec son déjeuner, prit sa tête à deux mains et crut perdre le sens. « Mangeons, lui dit Marouf. » Ensemble, ils déjeunèrent de pain, d'oignons crus, de fromage. « Que veux-tu ? » lui demanda Marouf. « Un château ? Des servantes ? Une maison de pierre et 4 sacs de blé à semer dans mon champ, répondit le bonhomme. « Je labourais pour rien, je n'avais pas de grain. » Le père du bonheur se chargea du travail. Au soir de ce jour, Marouf entra dans la ville à la tête d'une caravane prodigieuse. Son épouse à sa fenêtre en fut bouleversée. Elle crut que son mari lui avait menti pour éprouver sa loyauté. Le roi et les marchands furent tous considérablement éblouis, mais à peine étonnés. Les trésors attendus arrivaient enfin. Ils ne virent là rien de surprenant. Seul le vizir grogna qu'il y avait là-dessous quelque inavouable magie. Il était envieux, on s'amusa de lui. Ainsi finit l'histoire de Marouf et de sa caravane de rêve. Amis, que la vôtre, comme la sienne, arrive un jour à bon port. Le fils du roi et la princesse muette. Un roi avait 7 fils. À l'heure de sa mort, il les fait tous venir au chevet de son lit et la voix presque éteinte, il leur dit : Mes enfants, les bienheureux m'attendent au jardin des délices. Je vais bientôt partir. Je vous laisse mes biens et mon royaume en bon état. Faites votre bonheur de tout, même de l'imprévu. La vie est un voyage. Je n'exige de vous que peu de choses, un serment. Au milieu du jardin, cet an dernier, j'ai fait dresser une tour blanche. Promettez-moi de ne jamais l'ouvrir et je mourrai tranquille. Roi, répondirent les 7 frères, ton désir sera respecté. Ce fut dit, ce ne fut pas fait. L'aîné, 14 nuits, se tint à sa fenêtre, captivé par la tour obscure sous la lune, au milieu du jardin. Au 15e matin, comme un assoiffé court à l'oasis dans le désert, il se précipita, ouvrit sa porte bleue. Une gazelle sortit à l'air du jour et s'enfuit si vivement que le prince la vit à peine s'éloigner. Il la poursuivit à travers les prés, les vallons, les ruisseaux, les forêts, les montagnes. Il vit une ville au bout de sa course. Il y entra pour son malheur, car à peine la nuit passée, à l'aube rouge, on lui trancha le cou et l'on jeta son corps aux chiens. Après un an, son frère le deuxième, pareillement contraint par l'élan de son cœur, ouvrit la porte bleue. Après 2 ans, son frère le troisième vit la gazelle vive s'enfuir par les champs et les monts. Après 3 ans, son frère le quatrième poursuivit jusqu'au crépuscule la bête magnifique. Après 4 ans, son frère le cinquième, au soir, entra dans la ville maudite. Après 5 ans, son frère le sixième fut au matin, comme les autres, décapité par le bourreau. Après 6 ans, le septième suivit enfin la même route. Il parvint au portail de la même cité. Il vit là suspendues 6 têtes aux murailles. Il reconnut ses frères. Comme il restait saisi d'horreur, un garde vint à lui. « Que fais-tu là, garçon ?»« Je regarde ces morts. Quels crimes ont-ils commis ?»« Aucun, sauf de venir d'ailleurs. La princesse d'ici a perdu la parole. Chaque étranger qui passe est mené au palais. Le roi lui dit « Choisis ». Après avoir passé une nuit avec toi, ma fille parle enfin et tu la prends pour femme. Elle reste muette et tu es mise à mort. Aucun jusqu'à présent n'a survécu. Retourne chez toi, sinon demain matin ta tête pendra là, à côté des 6 autres. Le prince répondit. Mène-moi au palais. Je veux voir cette fille par qui sont morts 6 frères, aussi vaillants que beaux. On le conduisit donc au roi de la cité. C'était un pauvre roi. Il avait les yeux tristes. « Étranger, lui dit-il, tu es jeune, renonce. Il ne me plairait pas de voir ton cou tranché. Seigneur, où sont passés mes frères, je passerai. Descends dans le jardin, assieds-toi sous un arbre, médite jusqu'au soir. Si, quand viendra la nuit, tu as changé d'avis, j'en serai bien content, dit le roi. Le prince descendit parmi les feuillages et les chants d'oiseaux. Comme il goûtait la brise sous un olivier, un rossignol menu tomba sur son épaule. Il le prit, caressa son plumage froissé, puis il leva le front. Il vit au bord du nid, sur une branche haute, sa mère voltée, impuissante, affolée. Il lui dit « Ne crains pas, ton petit n'est pas mort. » Il grimpa dans l'arbre et remit l'oisillon au chaud de la couvée. Alors, la mère oiseau, voltant encore autour de lui, se mit à roucouler, et le prince entendit ces mots à voix de femme. « Tu as sauvé mon fils, je te dois une vie. Je sauverai la tienne. Souviens-toi, cette nuit, chez la fille du roi, parle à son chandelier. Je serai là, caché. Dieu te garde, jeune homme. » Il ne répondit pas. Jusqu'au soir, il resta ébahi, à rire doucement. Quand parut la première étoile, 2 gardes vinrent le chercher. « Puisque tu veux mourir, lui dirent-ils, voici. La princesse vit là, dans ce pavillon. Nous entrerons avec toi, nous resterons derrière les rideaux et nous guetterons un mot d'elle, un seul mot. » Mais autant espérer un discours d'une carpe. Le jeune homme entra dans la chambre. La princesse n'eut pas un regard pour lui. Elle resta, rêveuse, au bord de la fenêtre. Sur la table près d'elle était un chandelier. « Salut aux habitants de ce lieu, » dit le prince. Il s'assit, se pencha. « Que Dieu te donne longue vie, chandelier. Parlons un peu, veux-tu ? » Volontiers, Seigneur, répondit la voix du rossignol. J'aimerais te conter une histoire que j'ai autrefois entendue d'un amoureux aveugle. À la fin du récit est une question grave. Que tu saches répondre ou non, qu'importe. Le jeu nous aidera à traverser la nuit. La princesse, surprise, écarquilla les yeux, mais elle resta bouche close. Raconte, ami, dit plaisamment le prince. Cela me distraira de cette fille de roi qui se prétend muette et qui doit jacasser comme une pie derrière son front pâle. Écoute donc, Seigneur, reprit le rossignol. Trois hommes voyageaient. L'un était menuisier, le deuxième tailleur, le troisième étudiant. Comme ils traversaient un pays de brigands, un soir au campement, ils convinrent de veiller près du feu, chacun un tiers de nuit. Le premier tour de garde échut au menuisier. Cet homme, pour tromper ses heures solitaires, sculpta une statue de femme dans un tronc de bois sec. Quand fut venue son heure, le tailleur la vêtit de quelques bouts d'étoffe, puis s'endormit près d'elle. L'étudiant s'éveilla, vit cette créature de bois devant lui, habillée, et soudain, ébloui par sa beauté, « Dieu Tout-Puissant, dit-il, faites qu'elle ait une âme !» Dieu exauça son vœu. La statue s'anima. Chacun des voyageurs, au matin, l'a voulu tout à lui. « Seigneur, à ton avis, à qui revenait-elle ?»« Au menuisier, répondit le jeune homme. Il a sculpté sa tête, son corps, ses membres, il l'a créé de rien. »« Fils de roi, ta sentence est absurde, dit une voix maussade au bord de la fenêtre. »« Qui parle ?» dit le prince. « Une femme ? Un fantôme ?»« C'est moi, répondit la princesse. Qu'a fait le menuisier ? Une forme sans vie. Le tailleur l'a vêtu, ne parlons pas de lui, il n'a pas fait grand-chose. C'est à l'étudiant seul qu'elle doit revenir, car sa prière était d'un amant véritable. Et Dieu l'a entendu, et Dieu a tout donné, parole, cœur et sens, par amour de l'amour. « Fille, gronda le prince, que sais-tu de l'amour, toi par qui mes six frères ont eu le cou tranché ?»« Tel était leur destin, dit-elle, comme le tien était de me rendre ma langue avant de m'épouser. »« Qu'il en soit donc selon la volonté de Dieu, lui répondit le prince, et maintenant, silence, car je hais plus que tout les femmes bavardes. » Ils se marièrent. Elle parla parfois, mais peu, et fut heureuse. Le comte, prudemment, n'en dit pas davantage. Le trésor. Il était une fois un homme marié à une femme simple. Certes, elle avait bon cœur, mais elle était naïve. Elle gobait tout ce qu'on lui disait. Quelque farceur l'aurait-il informé que 100 chameaux chargés de sucre et de diamants faisaient route vers elle, elle aurait aussitôt balayé le chemin devant sa porte pour accueillir ce miracle. Or, son mari était un pauvre entre les pauvres. Il gagnait là 3 sous à porter des fardeaux, là un os de mouton pour une course en ville, bref, à peine de quoi survivre. Sa femme un jour lui dit « Tu me sembles en souci. Tu as besoin, mon homme, de faire un bon repas. Que voudrais-tu manger ?»«
Un bœuf entier, répondit le bonhomme, un bœuf tendre et doré que je partagerais avec quelques amis sur des coussins moelleux dans une maison neuve. Femme, qu'en penses-tu ? » ?»«
C'est une idée splendide, s'écria-t-elle. » Il haussa les épaules et s'en fut au travail pensant mélancolique. La sotte, elle sait bien que comme chaque jour, nous n'aurons à dîner qu'une galette sèche. Pourquoi donc me trouble-t-elle avec ses rêveries ? Quand il revint chez lui à l'heure où s'allument les étoiles, il la trouva dehors, assise devant sa porte. À côté d'elle était un sac de vêtements, leur couverture bleue déchirée en carré, et un fagot de bois. Il se frotta les yeux, mit les poings sur ses hanches. « Mais que fais-tu là ? » dit-il. Elle lui répondit, « J'attends le bœuf à cuire et la belle maison. J'ai le bois pour le feu, le tissu découpé pour les coussins moelleux, et puisque ce logis ne nous est plus utile, je l'ai donné à des mendiants. Mon homme, ai-je mal fait ?» Il gémit accablé. « Nous étions pauvres, hélas, nous voilà misérables. » Il s'en alla s'asseoir au bout de la ruelle, sur un tas de cailloux, et se mit à pleurer. La lune était levée, les passants étaient rares. Vers minuit, un vieillard s'arrêta devant lui. « Salut, dit-il, tu as l'air malheureux. »«
Salut, grand-père, je n'ai rien à manger. »«
Prends ces quelques olives. « Je cherche un ouvrier. »«
Merci, grand-père, je te suis à l'instant. »
Le vieillard l'entraîna parmi les maisons basses jusqu'au fond d'une impasse obscure où il poussa une porte. Là était un jardin. Ils entrèrent. Parmi les fleurs, au centre, était une fontaine. « Vide l'eau du bassin, » dit le vieux au pauvre homme. L'autre l'eut bientôt fait. Au fond, il découvrit une pierre carrée. Soulève cette dalle. La dalle fermait un caveau. Tous deux y descendirent. La lueur de leur torche éclaira dans un coin un tas de pièces d'or terreuses. Nettoie-les une à une, dit le vieillard. Je paierai ton travail du tiers de ce trésor. Dans 10 jours, je reviendrai te voir et nous ferons nos comptes. L'homme se mit donc à l'ouvrage. Au matin, il courut louer une cabane. Il y mena sa femme avec 10 pains de seigle et 10 fromages blancs. « Reste là, lui dit-il, je reviendrai bientôt. » En hâte, il retourna au travail dans son trou. Quand le temps fut venu, il attendit le vieux, mais personne ne vint. Il sortit dans l'impasse, interrogea les gens, demanda où trouver le maître du jardin. « Voilà presque 10 jours qu'il est mort, lui dit-on. Il n'a pas d'héritier. Sa maison est à vendre. »« Peut-on la visiter ?» demanda le bonhomme. Elle était vaste et blanche, ornée de beaux tapis, de sofas, de coussins. Errant dans ses couloirs, ses salles d'eau, ses chambres, l'homme s'extasia longtemps à respirer le parfum de la richesse. Enfin, en grand secret, il revint au caveau, prit un tiers du trésor, 4 poignées d'or, c'était là son salaire. D'une seule, il paya la demeure du vieux. Puis il engagea 3 servantes, leur ordonna d'aller chercher sa femme, de la conduire au hammam et de lui faire choisir quelques habits de fête. Les 3 filles aussitôt s'en allèrent. Dès qu'elles furent entrées dans l'ombre du taudis, « Vous voici enfin, mes bonnes enfants ?» leur dit la pauvre épouse. « Je commençais à m'ennuyer. » Elle fut menée au bain des princesses, puis 4 couturiers vinrent lui présenter de riches vêtements ornés de broderies et de dentelles fines. Quand elle fut parée, fardée, coiffée et parfumée, on la conduisit où était son époux. Il l'accueillit à l'entrée du jardin. « Tu voulais une belle maison, lui dit-il, la voici. » « Entre donc !» Elle entra, éblouie, puis elle demanda « Et le bœuf, le gros bœuf pour le dîner d'amis ?» L'homme envoya chercher un bestiau colossal, invita à dîner les gens de la ruelle. Il fit entrer son monde avec des musiciens. « C'est bien, lui dit la femme, tout est comme prévu. » Elle rit, et son mari, la menant par la main, l'installa dignement à la place d'honneur. La musique du cœur du monde. Il était 3 sœurs, belles, pauvres. Elles travaillaient nuit et jour. Il était un roi, nuit et jour, inquiet. Dès le soir venu, il allait en ville, déguisé en gueux. Il écoutait les gens dire parfois du bien, parfois du mal de lui. Or, un soir, il vint à passer devant la maison des sœurs laborieuses. Par un soupirail, il vit leurs chandelles, entendit leur voix monter dans l'air doux. Il tendit l'oreille. « Moi, disait l'aîné, si le roi voulait me prendre pour femme, je l'aimerais tant que pour lui, je tisserais un tapis plus grand que les mers du monde. Moi, disait la deuxième, je ferais pour lui un abri de toile assez souple et grand pour envelopper une armée entière. Si le roi voulait me prendre pour femme, disait la troisième, je lui donnerais deux enfants parfaits. L'un serait garçon, il aurait au front un croissant de lune. L'autre serait fille et sa chevelure serait comme un ciel étoilé. » Ces paroles émurent grandement le roi. À l'aube, il revint rêveur au palais. Il fit appeler l'aîné des trois sœurs. « Saurais-tu tisser ce tapis superbe ?»« Sire, assurément. » Le roi l'épousa, puis lui rappela la promesse faite. Elle répondit « Sire, je suis reine et point tisserande. Moi, tordre le fil, demandez à d'autres. » Le roi la chassa. « Servante aux cuisines, voilà désormais ce que tu seras. » Il fit appeler la deuxième fille. « Feras-tu pour moi cet abri de toile ?»« Sire, assurément. » Le roi l'épousa. Dès le soir des noces, il dit « J'attends. » Elle lui répondit, ivre de parfums, d'ors et de musique. « Je suis riche et belle. Plus jamais, Seigneur, je n'abîmerai mes mains à l'ouvrage. J'ai travaillé dur. Je veux vivre doux. » Le roi dépité l'envoya rejoindre sa sœur au fourneau. Il fit devant lui venir la cadette. « Me donneras-tu ces enfants étranges que tu m'as promis ?»« Sire, si Dieu le veut. » Le roi la combla d'amour fort et tendre. Bientôt l'épousée fut grosse d'enfants. Ses sœurs aux cuisines, en furent si rogneuses que leur teint jaunit. Vint la mise au monde. Le roi, ce jour-là, était à la chasse. Sa femme accoucha d'un fils au front orné d'un croissant de lune et d'une fille aux cheveux pareils au ciel étoilé. Ses sœurs, aussitôt, vinrent en visite. L'une avait un chien caché dans sa robe et l'autre une chienne. Elles firent des mines à la jeune mère, la félicitèrent, baisèrent son front. Mais dès qu'elle fut endormie, les bougresses jalouses prirent le fils au front lunaire et sa sœur, la fille étoilée, mirent à leur place le chien et la chienne, bouclèrent les enfants dans un coffre de bois et, le dos courbé dans la nuit, s'enfuirent les jeter au fleuve. Au petit jour, le roi revint de sa chasse lointaine. Il courut à la chambre où était son épouse. Dans les berceaux jumeaux, il découvrit les bêtes. Il en fut pris de rage. Il renversa le lit, fouetta sa pauvre femme, ordonna qu'elle fût enchaînée sur la place publique avec ses deux chiots et qu'elle fût nourrie comme le sont les chiens. Or, au bord de la mer, vivait un vieux avec sa vieille. Il n'avait pour tout bien qu'une chèvre aux longs poils qui s'en allait trottant le matin toute seule et revenait le soir, le pis gonflé de lait. De ce lait, les deux vieux faisaient quelques fromages. De ce fromage, ils vivaient tous les soirs de leur vie. Il en fut ainsi jusqu'au jour où la chèvre revint sans lait dans ses mamelles. La vieille, devant elle, resta perplexe un long moment. Le lendemain, même misère. Les deux époux, inquiets, se regardèrent. Quand le surlendemain, la chèvre s'en revint sèche autant que la veille, le vieux fit la grimace. Il pensa « On nous vole !» Dès le matin suivant, il la suivit de loin parmi les dunes. Il la vit disparaître entre deux buissons bas. Il s'approcha. Il vit deux nourrissons qui tétaient goulûment au tétin de la bête. Au front de l'un brillait le croissant de la lune et les cheveux de l'autre étaient tout étoilés. Le vieux prit dans ses bras le garçon et la fille. Il les mena chez lui. La vieille, en les voyant, joignit les mains sous le menton. « Ils seront nos enfants, » dit-elle, toute heureuse. Une nouvelle vie commença. Ces deux enfants étaient en vérité des vivants magnifiques. Quand le garçon pleurait, ses larmes étaient des perles. Quand la fille, au matin, peignait sa chevelure, de la poudre d'or tombait sur ses épaules. Après 14 années, les deux vieux moururent. Le garçon et sa sœur, riches,
de perles et d'or, s'établirent dans une maison forte, au bord d'un bois touffu. Vint le jour mémorable où le garçon s'en fut poursuivre une gazelle. Vers midi, parvenu au pied d'un rocher blanc, il vit venir une troupe superbe. C'était le roi, son père, avec ses courtisans. Le roi vit ce garçon, vit luire sur son front le croissant de la lune. Il pensa « Cet enfant me ressemble ». Il en fut troublé à l'extrême. Il resta immobile à le regarder, puis brusquement tourna bride, revint à son palais et s'enferma dans sa chambre. Chacun s'interrogea sur son étrange peine. Les deux mauvaises sœurs entendirent bientôt le récit que partout on faisait à la cour. Le roi, dans la forêt, avait croisé la route d'un adolescent au front orné d'un croissant de lune. Les sœurs s'effrayèrent. Les deux jumeaux vivaient. Voilà ce qu'elles se dirent. Ils reviendraient un jour, tôt ou tard, les confondre. Il faut les éloigner, dit l'aîné. Comment faire ? L'autre lui répondit. Déguisons-nous en vieilles. Allons rôder chez eux. Elles allèrent donc et trouvèrent la fille seule dans sa maison. Son frère, tous les jours, allait à la chasse et ne rentrait que le soir.
Tu t'ennuies, fille belle, oh, comme tu t'ennuies, lui dirent les sorcières.
L'enfant leur répondit, peut-être, bonne vieille. Elle ignorait pourtant jusqu'à ce mauvais jour ce qu'ennui voulait dire. « Enfant, nous savons bien ce qui manque à ta vie. Et quoi donc, bonne vieille ? La musique du cœur du monde. Elle seule pourrait t'offrir ce bonheur qui te fuit sans cesse. » C'était chose introuvable. Les vieilles le savaient. Au soir, quand le garçon revint de la forêt, « Mon frère, dit l'enfant, l'ennui ronge mon cœur. » J'aimerais tant entendre une fois dans ma vie la musique du cœur du monde. Ma sœur, où la trouver ? Mon frère, je l'ignore, mais je sens que sans elle, je vais mourir bientôt. Elle pleura 2 jours. Au 3e matin, le jeune homme sella son cheval et partit à la recherche de ce remède impalpable et secret. Il voyagea longtemps, demandant çà et là si quelqu'un connaissait ce lieu où se cachait la musique du cœur du monde. Personne ne savait. Encore il chevaucha jusqu'au seuil d'un désert. Là, il vit un vieillard sur une pierre plate. Il semblait méditer dans le manteau de sable que lui faisait le vent. Le garçon s'approcha, s'assit auprès de lui. « Vieux père, lui dit-il, je cherche le chemin qui mène au cœur du monde. »
« Et que veux-tu trouver, mon fils, au cœur du monde ?»«
Vieux père, une musique. »«
Mon fils, donne du pain au pauvre que je suis. »
Ils mangèrent ensemble, quand ce fut fait. « Mon fils, dit le vieillard, ta route est difficile et peut-être mortelle. C'est tout ce que je sais, mais va sur ce chemin. » Là-bas, à l'horizon, vit un homme de bien. Il t'aidera peut-être. Le garçon se leva. Le vieillard le retint. Attends encore, attends. À toi, qui m'as donné du pain, je veux faire un cadeau. Prends ce clou. Garde-le. Il te sera utile. Le jeune homme chevaucha jusqu'à l'horizon lointain, et là, contre un buisson, il vit un pauvre hère apparemment semblable au vieillard rencontré à l'entrée du désert. Il lui donna du pain, de l'eau et du fromage. Ils mangèrent ensemble. « Mon fils, lui dit le vieil homme, je sais bien peu de choses, mais j'ai là-bas un frère infiniment savant. Il vit dans une hutte au fond d'une vallée. Va le voir de ma part, il t'aidera sans doute. » Le garçon se leva. À toi qui m'as nourri, dit encore le vieux, je veux faire un cadeau. Prends ce couteau et que Dieu te protège. Le jeune homme s'en fut, chemina 4 jours. Au matin du 5e, il vit 2 monts brumeux. Entre eux, il s'engagea dans l'étroite vallée, remonta le torrent, aperçut sur un roc une hutte bancale. Là, il mit pied à terre. Un ermite parut, vêtu de pauvre laine comme l'étaient ses frères aux deux bouts du désert. Assis devant la porte, ils burent et mangèrent. « Mon fils, je peux t'aider, » dit enfin le vieil homme en s'essuyant la bouche. « Si tu veux ramener du lieu où elle se trouve la musique du cœur du monde, tu devras traverser une plaine effrayante. Regarde, on la devine au fond de la vallée. Là sont des milliers d'hommes, tous debout, tous changés en statues par la peur qu'ils ont eue sur ce chemin terrible où ils étaient allés chercher ce que tu cherches. La peur, mon fils, voilà ton ennemi. Avance bravement parmi ces gens pierreux. Va jusqu'au puits creusé au milieu de la plaine et penche-toi sur lui. » Alors appelle, sans que ta voix ne tremble, la musique du cœur du monde. Du fond du puits, elle montera jusqu'à toi. Saisis-la promptement et fuis à toute bride. Fuis sans te retourner, car le charme qui tient ces guerriers dans la plaine sera du coup rompu et tous te poursuivront pour t'arracher ce qu'ils ont tant voulu. Quand ils te rejoindront, jette d'abord le clou que t'a donné mon frère à l'entrée du désert. Puis jette le couteau, puis jette cette fiole d'eau que je te donne. Et si Dieu veut, tu pourras te sauver. Pour l'heure, dors ici. Tu as besoin de force. Le jeune homme dormit sur un lit d'herbe sèche. Au matin, il s'en alla. Au fond de la vallée, il vit la vaste plaine, les milliers de statues. Toutes le regardèrent. Elles étaient en pierre et pourtant semblaient vivre. Il verrouilla son cœur, serra les dents, marcha. La peur lui vint dessus comme un brouillard épais. Il poussa sa monture à travers ses fumées. Alors, il vit un puits. À pied, il s'approcha, se pencha, murmura. « Musique, viens à moi. » Il entendit l'eau bruire. Un chant monta vers lui, et sur ce chant, il vit une feuille petite, verte, luisante, simple. Il la prit prestement, la mit dans sa chemise. Alors une clameur s'éleva de la plaine. Les guerriers réveillés, terribles, ferraillants, se ruèrent sur lui. Il bondit à cheval, chercha son clou dans sa besace, le lança par-dessus l'épaule. Un champ de pieux enfers surgit derrière lui. 100 de ses poursuivants s'y trouèrent la peau. Les autres, s'acharnant à grands coups d'éperon, eurent au fait de le rejoindre. Il jeta son couteau. Un champ de longues lames surgit derrière lui. 200 furent tranchés, hachés, taillés en pièces. Les autres, cravachant et cravachant encore, levèrent leurs épées sur la croupe de son cheval. Il lança la fiole d'eau claire. Les derniers acharnés furent bientôt noyés dans le torrent furieux, soudain tombé du ciel sur la plaine infinie. 100 jours après qu'il fut parti, le jeune homme parvint en vue de sa maison. Alors, la feuille verte, au chaud de sa tunique, lui parla à voix basse. « Près de ta sœur, dit-elle, sont 2 vieilles sorcières. Mon maître, chasse-les. » À peine entré chez lui, il les prit par le col et les jeta dehors. « Maintenant, dit la feuille verte, pose-moi dans l'armoire. » Dans l'armoire, il la mit, prit sa sœur par l'épaule et tous deux regardèrent. Alors, ils virent s'ouvrir une fenêtre. Une musique vint. Plus simple que le ciel, plus pur que la source, plus tendre que la vie quand il fait doux le soir. Et par cette musique, ils virent leur naissance, ils virent tout d'eux-mêmes, et de leur père et mère, et de la vérité. Ils s'en allèrent à la ville du roi. Sur la place publique, ils virent une femme enchaînée contre un mur. Ils s'agenouillèrent près d'elle, lavèrent son visage avec un mouchoir blanc. Le roi de son balcon leur cria rudement, « Passez votre chemin, cette femme est maudite !» Le jeune homme lui dit, « Jetez-moi donc du fer pour nourrir mon cheval. »« Tu te moques de moi, lui répondit le roi. Depuis quand les chevaux mangent-ils des ferrailles ?»«
Sire, dit le garçon, pourquoi ne pas me croire ?» puisque vous avez cru qu'une femme pouvait mettre des chiens au monde. la lumière aussitôt illumina le roi. Fils, fille, père et mère furent bientôt ensemble, avec la feuille verte au milieu, sur la table, d'où montait pour eux seuls, éblouis et muets, la musique du cœur du monde. Nouruddin, le cordelier, N-U-R-U-D-I-N. En ce temps-là vivait dans la ville du Caire un cordelier nommé Nouruddin. C'était un homme pauvre et simple. Il travaillait sans guère de repos dans la lumière d'un rayon de soleil poussiéreux sous sa lucarne étroite, usant de l'aube au soir ses yeux, ses mains, sa vie. Il gagnait peu, se contentait de presque rien et chantonnait parfois pour se donner du cœur courbé sur son ouvrage. Et chaque jour était aux autres jours semblable. Or, un matin, comme deux inconnus discrètement entrés examinaient dans son échoppe quelques lots de cordages en vente çà et là, Nouruddin entendit l'un de ses hommes dire à l'autre « Aussi sûr que nous avons tous une origine, mon cher ami, nous avons tous un destin, mais ce destin n'est pas rigoureusement fixe. Il peut prendre tel ou tel chemin selon la chance ou l'occasion. Par exemple, voyez ce pauvre cordelier. Sa vie semble tracée, il est né misérable, misérable il mourra s'il suit sa route prévisible. Supposez maintenant que le hasard lui offre un sac de pièces d'or. Sa vie prendrait un cours sûrement différent. » Nouruddin, dans son coin, sourit, hocha la tête et dit timidement « Excusez, monseigneur, mais j'ai, sans le vouloir, entendu vos paroles. Elles sont belles, certes. Hélas, comment les croire? Comment imaginer qu'un sac d'or puisse un jour franchir un pas de porte aussi peu engageant que le mien? L'argent va à l'argent, voilà la vérité. » « Mon ami, lui répondit l'homme, Dieu s'est montré si généreux avec moi que je ne peux dépenser seul la fortune qu'il m'a donnée. Aussi, j'aide les pauvres autant qu'il m'est possible. Dis-moi, que faudrait-il pour que tu sois heureux ?»« Que vous dire, monseigneur ?» balbutia Nouruddin, le cœur soudain battant et les mains toutes moites. « Si j'avais, par exemple, un bel atelier neuf, spacieux, bien aéré, et 3 ou 4 ouvriers pour m'aider au travail, je vivrais à mon aise. Sauf malheur imprévu, oui, je vivrais heureux. » L'homme prit une bourse à sa large ceinture, la posa sur la table. « Ces quelques pièces d'or, dit-il, suffiraient-elles à payer les travaux que tu veux entreprendre ?»« Seigneur, bien largement, répondit Nouruddin. « Oh, merci 1000 fois, que les grâces du ciel soient à jamais sur vous. » « Le bonjour, cordelier. Mon ami et moi-même reviendrons dans 3 mois voir comment la fortune a changé ton destin. » Les deux hommes sortirent, laissant là Nouruddin, son sac d'or à la main. Il resta un moment, pantois, puis, jetant tout à coup un œil effrayé par la lucarne, il ne vit partout dans la ruelle que des voleurs possibles. Il chercha aussitôt où cacher son trésor, découvrit dans un coin un vieux pot de farine, il y enfouit sa bourse et s'en fut au café, boire au dieu du hasard et rêver d'avenir opulent et paisible. Fin de la deuxième face de la 7e cassette. Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse. Page 312. La fin de l'histoire de Nouruddin le cordelier se trouve sur le début de la 8e cassette. À tout de suite.